18h30 en temps universel, 20h30 ici à Paris, vous écoutez RFI.
Afrique Soir.
C'est avec vous, Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Philippe Le Caplan, bonsoir à toutes et à tous. À la une, violente attaque dans le centre du Nigeria, bilan plusieurs dizaines de morts et de nombreuses maisons incendiées dans cette région en proie à une recrudescence de violences communautaires depuis plusieurs mois. On parlera aussi de la mobilisation des militants du PDCI-RDA en Côte d'Ivoire, manifestation ce samedi à Abidjan pour exiger la réinscription de leur leader Tidiane Thiam sur la liste électorale. Et puis politique toujours, cette fois au Burundi, et la réponse du chef de l'État à l'opposition qui reproche au pouvoir d'avoir tué la démocratie en cause le double scrutin législatif et communal très contesté du 5 juin dernier. Oui, au Nigeria, l'horreur une nouvelle fois. Une attaque particulièrement violente a fait plusieurs dizaines de morts dans la nuit de vendredi à samedi dans le village de Yelewata, situé dans l'état de Benoé, au centre du pays. Bonsoir Clotilde Hazard.
Bonsoir.
Alors, selon plusieurs témoins, Clotilde, des hommes armés ont pris d'assaut le village, ont tiré à l'arme à feu et incendié de nombreuses habitations.
Oui, plusieurs témoignages rapportés par l'AFP décrivent des scènes d'horreur et parlent d'une centaine de morts. Les autorités régionales ont confirmé le décès de 45 personnes, mais la police n'a pas encore fourni de bilan officiel. Selon les médias locaux, des coups de feu ont retenti toute la nuit. Les maisons et les boutiques ont été incendiées. De nombreuses personnes sont mortes, brûlées vives, alors qu'elles dormaient à l'intérieur de leurs maisons ou de magasins. Parmi les victimes, des familles entières, des soldats, mais aussi beaucoup de personnes déplacées des villages alentours, réfugiées à Yelewata, justement en raison de la recrudescence des violences ces derniers mois dans la région. Mais la police et les soldats présents se sont trouvés dépassés par ces attaques coordonnées perpétrées par plusieurs groupes de terroristes qui sont arrivés depuis différents endroits de la ville. Les tensions se cristallisent entre des éleveurs peuls et des agriculteurs sédentaires autour de la question du contrôle des terres et de l'accès aux ressources naturelles, de plus en plus limitées sous l'effet du changement climatique et de l'expansion démographique. Il y a deux semaines, à peine 25 personnes avaient déjà été tuées dans une attaque similaire dans la même région.
Merci Clotilde Hazard. En Côte d'Ivoire, plusieurs milliers de sympathisants du PDCI-RDA ont donc marché ce matin dans le centre-ville de la commune de Cocody à Abidjan. Manifestation pour réclamer la réintégration de leur leader Tidiane Thiam sur la liste électorale. La principale formation d'opposition du pays manifestait aussi pour réclamer des réformes électorales. À Abidjan, le récit de Binta Diagne.
Chemise verte et t-shirt blanc aux couleurs du parti, les militants du PDCI-RDA ont bravé la pluie pour défendre leur leader radié de la liste électorale. Titi président, ça suffit, tels sont les slogans brandis par les manifestants. Les militants ont été pacifiquement escortés par la police jusqu'au siège de la commission électorale indépendante. Là-bas, les cadres du parti ont remis une lettre au secrétariat permanent de cette instance, une lettre dans laquelle le PDCI liste une série de doléances. Ce parti remet en question la neutralité de la la fiabilité du fichier électoral et au-delà du cas de Tidiane Thiam, le PDCI dénonce la radiation de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro et de Charles Blégoudé. Nous considérons ces radiations comme des manœuvres dolosives pour éliminer des adversaires politiques au moyen d'artifices juridiques inopérants, a déclaré Sylvestre Emou, le secrétaire exécutif du PDCI. Des accusations que le gouvernement rejette, rappelant qu'un état de droit a été instauré dans le pays ces dernières années. Quant à l'appel au dialogue formulé par l'opposition, Kobelan Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, a dénoncé cette semaine des manœuvres dilatoires visant, selon lui, à ne pas aller aux élections. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
La conférence des évêques du Togo dénonce dans son communiqué la violence de la désinformation et les atteintes aux droits de l'homme. Communiqué publié vendredi à l'issue de sa 139e session, déclaration qui intervient alors que le pays traverse une période tendue ces derniers jours. Tension marquée par l'interpellation entre autres de l'artiste Amron, avec notamment les appels à manifester pour sa libération et la répression le 6 juin dernier. Au Mali, dans quelles conditions un avion de la coalition armée malienne Africa Corps a-t-il pris feu peu après un atterrissage forcé ce samedi matin, non loin de la piste de l'aéroport de Gao, principale ville du nord du pays? Rebelles maliens et forces gouvernementales ont des versions différentes. Correspondance régionale, Serge Daniel.
Selon les témoins, l'avion de combat, un Sukhoi 24 de fabrication russe, est tombé ce samedi matin dans le fleuve Niger avant de prendre feu non loin de l'aéroport de Gao. Plusieurs riverains ayant filmé la scène ont vu leur téléphone portable saisi. Quelques images ont quand même pu circuler. L'armée malienne de son côté précise, le mauvais temps a obligé l'aéronef de retour de mission a effectué un atterrissage forcé. L'appareil a été gravement endommagé. La même source ajoute, deux pilotes ont été récupérés en bonne santé, ils reçoivent des soins appropriés dans des structures de santé de la place. Cette version des faits est contestée par un responsable de la rébellion malienne du Front de Libération de l'Azawad, FLA. Selon cette source civile, l'appareil aurait été touché par un tir des rebelles, ce qui aurait provoqué l'atterrissage forcé près de la ville de Gao. Déjà la veille, la rébellion du FLA par la voix de son porte-parole avait annoncé qu'un premier avion de la coalition armée malienne combattant d'Africa Corps avait été endommagé lors des affrontements. Serge Daniel, Dakar, RFI.
RFI, 18h36 à Dakar.
Afrique Soir sur RFI.
Avec la politique au Burundi et la réaction du chef de l'État aux accusations de l'opposition qui reproche au pouvoir d'avoir tué la démocratie. Pouvoir très précisément accusé d'avoir organisé des élections qui ne respectent aucun standard international. Réponse du président Évariste Ndayishimiye ce samedi lors d'une conférence impromptue à Bujumbura. Le chef de l'État se félicite d'élections qui se sont déroulées dans la paix, le calme et la transparence. Il appelle également les opposants qui ont des récriminations contre la commission électorale à se rapprocher de la justice. Écoutez.
Je voudrais rassurer tous ceux que j'entends se plaindre pour les résultats des élections. Je voudrais donc demander à ce propos qu'ils arrêtent de se plaindre et qu'ils portent plainte contre le bureau de vote où il y a eu des problèmes, en précisant de quel bureau de vote il s'agit exactement et le type d'irrégularité qu'ils disent avoir constaté. Mais sachez qu'il faut, avant d'aller porter plainte devant la justice, s'assurer que les institutions du pays, à commencer par moi-même, ne peuvent pas résoudre votre problème. Il faut savoir que la CENI, c'est une commission nationale indépendante qui est déléguée pour organiser les élections pour le pays. Donc si les agents de la CENI font mal leur travail, ceux qui sont lésés ont toute latitude de se référer aux institutions qui les ont déléguées pour leur dire « Ceux que vous avez désignés sont en train de travailler contre nous ». C'est pourquoi il faut d'abord voir les institutions qui dirigent le pays.
Voilà, extrait de la conférence de presse du président burundais ce samedi à Bujumbura. Et puis un possible accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo envisagé pour la mi-juin ne sera pas signé à ce stade. Déclaration du ministre rwandais des Affaires étrangères ce samedi en avril lors de discussions avec les États-Unis. Kigali et Kinshasa avaient convenu de rédiger un accord de paix visant à mettre fin à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Accord dont la signature était initialement prévue pour mi-juin. Des discussions reprennent d'ailleurs tout juste aux États-Unis entre délégations des deux pays. Washington espère désormais conclure d'ici fin juillet. Puis 26 nouveaux corps ont été retrouvés ce samedi, 3 jours après le naufrage survenu dans le nord-ouest de la RDC, ce qui porte à plus de 60 le nombre de morts selon un bilan de la société civile locale. Vendredi, le ministre provincial de l'Intérieur avait communiqué à l'agence France-Presse un bilan provisoire de 40 morts alors que la société civile avançait un décompte de 54 morts. Du football avec la Coupe du Monde des clubs, nouvelle compétition lancée par la FIFA. Elle démarre officiellement cette nuit du côté des États-Unis. Le Al Ahly du Caire sera opposé à l'Inter Miami de l'Argentin Lionel Messi. Les Diables Rouges égyptiens, club le plus titré du continent africain, peut nourrir légitimement de belles ambitions. Sofiane Avasian.
Un titre de champion contesté comme maigre consolation. Al Ahly, vainqueur pour la 45e fois du championnat national, avance masqué vers les États-Unis et le mondial des clubs. Les Kérottes ont été sérieusement bousculés cette saison par un club voisin, le Pyramids FC. D'abord en Ligue des champions de la CAF, terrain favori des Diables Rouges, qu'ils ont remporté 12 fois dans leur histoire. C'est un record. Élimination dans le dernier carré par le rival sud-africain, les Mamelodi Sundowns. Puis victoire au bout de Pyramids pour la toute première fois de ce tout jeune club. Un revers important pour Al Ahly, vainqueur de 4 des 6 dernières éditions. Le duel Al Ahly-Pyramids qui a de nouveau fait rage à la fin mai en championnat cette fois. Un recours est déposé pour contester le titre des Diables qui n'ont pas perdu de points au classement malgré un forfait face aux Zamalek, une plainte qui n'a pas encore abouti. C'est dans ce contexte que les Kérottes ont bousculé l'organigramme. Au revoir Marcel Koller. Bonjour José Rivero, ancien coach des Orlando Pirates. Connu pour sa rigueur et son identité de jeu, l'entraîneur espagnol veut voir grand pour sa nouvelle équipe atteindre les 8e de finale de la compétition. Pour cela, il faudra sortir d'un groupe homogène composé de Porto, Palmeiras et l'Inter Miami.
Sofiane Amazian.